Voilà, bonsoir. C'est toujours une joie que d'entendre quelque chose de concret de ce que Jésus a fait vraiment dans une vie, non? Ça ne vous encourage pas de savoir qu'on peut faire une expérience personnelle, vivre personnellement ce que raconte la parole de Dieu, ce qu'elle nous enseigne et ce qu'elle nous propose, et de voir que lorsqu'on prend en considération ce que Dieu dit, eh bien il l'accomplit dans notre vie, il reste fidèle à sa parole, il l'accomplit toujours, et elle ne revient pas à lui sans avoir accompli son effet, elle nous le dit encore. Je vous invite à ouvrir vos Bibles dans l'épître aux Corinthiens, la première épître aux Corinthiens, donc 1 Corinthiens chapitre 15, 1 Corinthiens 15 et verset 1. On a déjà eu pas mal de renseignements qui nous ont été donnés par Brice sur ce que Dieu veut faire, ce que Dieu a fait et ce qu'il fera encore dans nos vies, mais on va compléter cela avec vraiment la parole de Dieu en la lisant. Au verset 1 du chapitre 15, il nous est dit ceci: « Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. Il a été enseveli et il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures. Et il est apparu à Cephas, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Après eux tous, il m'est aussi apparu à moi comme à l'avorton, car je suis le moindre des apôtres, je ne suis pas digne d'être appelé apôtre parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été vaine, loin de là. J'ai travaillé plus que tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Ainsi donc, que ce soit moi, que ce soit eux, voilà ce que nous prêchons, et c'est ce que vous avez cru. Amen. » Ce texte, c'est Paul qui l'a écrit. Une épître, ça veut dire une lettre. C'est une lettre que l'apôtre Paul a envoyée aux habitants de Corinthe, à l'église des Corinthiens. Et il leur écrit, voilà, je vous rappelle l'évangile que je vous ai annoncé. La bonne nouvelle que je vous ai annoncée. Parce que l'évangile de Jésus-Christ, ça veut dire la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et que vous avez reçu, dans lequel ils avaient persévéré. Que ce soit le cas pour nous aussi qui avons cru, et par lequel vous êtes sauvés. Ce texte nous dit clairement que nous ne pouvons être sauvés que par un seul moyen, par l'évangile de Jésus-Christ lorsqu'on le reçoit et lorsqu'on persévère dans cet évangile. Alors, je vais mettre les bases. Premièrement, quelqu'un se dit peut-être, mais sauvé, sauvé de quoi? Est-ce que j'ai besoin d'être sauvé et de quoi est-ce que j'ai besoin d'être sauvé? Et là, je vais faire une lecture dans Romains, notre lecture, Romains 14, au verset 11. Il est dit ceci, il est écrit, « Je suis vivant, dit le Seigneur, tout genou fléchira devant moi, et toute langue donnera gloire à Dieu, ainsi chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. » Et c'est le verset 12 que je veux mettre en avant maintenant. « Ainsi chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. » Sauvé de quoi? Eh bien, du résultat de notre vie. La parole de Dieu nous dit qu'on va tous comparaître devant Dieu. Un jour ou l'autre, après notre mort, si jamais Jésus n'est pas revenu, après notre mort, après qu'on soit passé de ce monde-là à l'au-delà, on va paraître devant Dieu, comparaître devant Dieu, et il va nous dire, voilà, je t'ai donné la vie. C'est moi qui ai fait battre ton cœur dans le ventre de ta maman. Tu as pris vie, je t'ai donné la vie. Qu'est-ce que tu en as fait? Rends-moi des comptes aujourd'hui. Voilà. Et chacun d'entre nous, on rendra compte, pas pour les autres, mais pour notre vie à nous. Chacun pour soi. On devra expliquer, en tout cas on devra comparaître devant Dieu et rendre des comptes pour la manière dont on aura vécu notre vie. Apocalypse chapitre 20 et au verset 12. Encore là, si vous n'avez pas vos Bibles, ou si vous le voulez, je vous le lis. Apocalypse 20, 12. Il est dit ceci. Je vis les morts, les grands et les petits qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans les livres. Ça veut dire qu'il y aura des livres qui vont être ouverts, entre autres le livre de vie, mais pas que lui, et des livres où toute notre vie sera écrite. Savez-vous que Dieu voit tout? Dieu sait toutes choses sur votre vie? Et même quand vous pensiez être caché sous un arbre abrité ou dans une cave, de partout dans un avion, où que vous soyez, chaque instant de votre vie, Dieu vous voit, Dieu nous voit. Et à chacun d'entre nous, je nous rappelle qu'il est important de réaliser que Dieu voit chacun des instants de notre vie. Et tout est écrit dans un livre. C'est quelque chose, ça. La mer rendit les morts qui étaient avec elle, la mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux, et chacun fut jugé selon ses œuvres. Puis la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu, c'est la seconde mort, l'étang de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. Voilà sauvé de quoi? Alors un jour, on va tous comparaître devant Dieu pour rendre des comptes pour notre vie. Et il est dit que chaque instant de notre vie est marqué dans un livre, ça sera ouvert, et à nu comme ça, Dieu va vous dire, voilà ta vie. Et s'il y a un seul péché dans votre vie, vous êtes déclaré pécheur. Et la Bible est claire, elle arrête l'affaire là, elle dit, dans Romains chapitre 3, verset 23, il est dit que tous sont pécheurs, tous sont perdus et sont privés de la gloire de Dieu. Tous les hommes sont pécheurs. On est tous pareils. On a tous au moins un pécheur. Et s'il n'y avait qu'une seule chose qui était marquée dans ces livres-là, concernant nos œuvres, c'était, eh bien voilà, Jérémie, telle date, a menti. Par exemple. Jérémie, telle date, a fait ceci. Bien. Au niveau de nos œuvres, on est tous pécheurs et personne ne mérite que son nom soit inscrit dans le livre de vie. Vous savez que pour monter dans un avion, avant d'embarquer, on vérifie si vous êtes inscrit sur la liste des passagers. Et si vous n'y êtes pas inscrit, est-ce que vous pouvez monter dans un avion? Non. Et bien là, c'est pareil. Il y a un livre qui s'appelle le livre de vie. Si vous y êtes marqué, vous avez le droit d'entrer dans le paradis, dans le ciel. Et si vous n'y êtes pas marqué, vous ne pouvez pas y entrer. Et il est dit que ceux qui ne sont pas marqués, c'est-à-dire tous ceux qui sont pécheurs à la base, eh bien, ils ont pour espérance, pour suite, d'être jetés dans les temps de feu. C'est-à-dire, on va tous en enfer à cause de notre péché. Si je dis ça, c'est pas pour vous accabler, pour vous attrister et vous laisser comme ça ce soir, mais Brice l'a dit encore tout à l'heure, il y a des choses qu'on n'explique pas, et un jour, face à l'Évangile, face à la Bible, il a reconnu qu'il allait en enfer. Il a reconnu simplement qu'il était comme tout le monde, qu'il avait péché. Et que face à la sainteté de Dieu, face à la pureté de Dieu, il n'avait pas sa place au paradis, pas sa place au ciel. Donc il allait aller loin de Dieu. Ça, c'est la raison pour laquelle on a besoin d'être sauvé. Quelqu'un pourra dire, oui, mais moi je crois que Dieu est amour. Il n'y a que Dieu, que de l'amour dans Dieu. La Bible nous dit que Dieu est amour et je ne peux pas aller en enfer, c'est pas possible. Il aime les hommes. C'est vrai que Dieu aime l'homme. Mais dans Romains 11, verset 22, il est dit « Considère donc la bonté, mais aussi la sévérité de Dieu. » Dieu est bon, mais il ne ferme pas les yeux sur le péché. Dieu est juste. Sa justice est aussi grande que son amour. Il ne peut pas dire à quelqu'un « Tu n'es plus pécheur » alors qu'il l'est. Ce n'est pas possible. À moins qu'il paye la dette de son péché. Ou que quelqu'un d'autre paye pour lui. Alors oui, sauvé de quoi? Sauvé de ce qui était dit la seconde mort dans l'Apocalypse, l'enfer. Deuxième chose qu'on voit dans 1 Corinthiens chapitre 15, donc d'abord il nous est dit, c'est par lequel vous êtes sauvés, et verset 3, je vous ai enseigné avant tout, premier point, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés. Bonne nouvelle, elle est là la bonne nouvelle, c'est que si nous étions tous perdus par vocation à cause de notre péché, par conséquence, on va dire, eh bien aussi, on peut tous être sauvés parce que Jésus est mort pour nos péchés. Notre lecture dans Ésaïe 53, ça a été prédit, annoncé, prévu par Dieu. Dieu savait que les hommes auraient besoin d'un sauveur et il l'a annoncé 800 ans avant la venue de Jésus. Il disait ceci, par exemple, Ésaïe 53, verset 3, « Méprisé, abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Amen. 800 ans avant la venue de Jésus, Dieu annonçait par la bouche du prophète Ésaïe qu'il allait envoyer un sauveur qui allait souffrir l'enfer à notre place. Pour nous. Puisqu'à la croix, c'est là que Jésus est mort pour nos péchés, à la croix, Jésus a subi l'enfer. L'enfer, c'est quoi? C'est la séparation d'avec Dieu pour l'éternité, par exemple. À un moment, Jésus s'est écrié, ce qui est révélé dans les psaumes 22, par exemple. Commencez à le prendre avec votre main, vous trouvez psaume 22. Ce verset 2 du psaume 22, « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et t'éloignes-tu sans me secourir, sans écouter mes plaintes ?» Jésus était sur la croix, et à un moment, il s'est écrié, dans les évangiles, on le voit encore, ce qui a été même écrit plus de mille ans avant, les psaumes c'est mille ans, plus de mille ans avant la venue de Jésus, cette parole que Jésus a dite sur la croix, « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Jésus a subi la séparation d'avec Dieu. Il y a eu des ténèbres au moment où il a expiré, il y a eu complètement les ténèbres. Jésus a subi les ténèbres, et il est allé même dans le séjour des morts. Jésus est allé dans le séjour des morts, puisqu'il est vraiment mort. Jésus a vécu toutes ces choses. En enfer, il nous est dit que c'est un lieu de tourment, un lieu de souffrance, un lieu de pleurs, de grincements de dents. Jésus, sur la croix, a souffert l'ignominie. Et je vous invite à lire avec moi, je vous le lis encore, au psaume chapitre 22, toujours la suite, au verset 3. « Mon Dieu, je crie le jour et tu ne réponds pas, la nuit et je n'ai point de repos. Pourtant, tu es le Saint, tu sièges au milieu des louanges d'Israël. En toi se confiaient nos pères, ils se confiaient et tu les délivrais. Ils criaient à toi et ils étaient sauvés, ils se confiaient en toi et ils n'étaient point confus. » Et regardez ce que Jésus dit, puisque là c'est Jésus qui parle par la bouche de David. « Et moi, je suis un ver et non un homme, l'opprobre des hommes et le méprisé du peuple. Tous ceux qui me voient se moquent de moi. Ils ouvrent la bouche, secouent la tête. Recommande-toi à l'Éternel, l'Éternel le sauvera, il le délivrera puisqu'il m'aime. Oui, tu m'as fait sortir du sein maternel. Tu m'as mis en sûreté sur les mamelles de ma mère. Dès le sein maternel, j'ai été sous ta garde. Dès le ventre de ma mère, tu as été mon Dieu. Ne t'éloigne pas de moi quand la détresse est proche, quand personne ne vient à mon secours. De nombreux taureaux sont autour de moi. Des taureaux de Bazan m'environnent. Ils ouvrent contre moi leur gueule, semblable au lion qui déchire et rugit. Je suis comme de l'eau qui s'écoule, et tous mes os se séparent. Mon cœur est comme de la cire, il se fond dans mes entrailles. Ma force se dessèche comme l'argile, et ma langue s'attache à mon palais. Tu me réduis à la poussière de la mort, car des chiens m'environnent. Une bande de scélérats rôde autour de moi. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Je pourrais compter tous mes os, eux. Ils observent, ils me regardent, ils se partagent mes vêtements, ils tirent au sort ma tunique. Et toi, Éternel, ne t'éloigne pas. Toi qui es ma force, viens en hâte à mon secours. Protège mon âme contre le glaive, ma vie contre le pouvoir des chiens. Sauve-moi de la gueule du lion, délivre-moi des cornes du buffle. Voyez, ce que Jésus a subi à la croix, c'était pas marrant, c'était pas drôle, c'était une souffrance horrible. Et plus de mille ans avant que ça n'arrive, c'était déjà écrit. Et Jésus, sachant ce qui allait lui arriver, a quitté son ciel de gloire et venu sur la terre pour mourir pour toi, pour moi. Il a vécu l'enfer sur la croix. Il a souffert l'ignominie de la croix, la honte, les moqueries, la violence. Il est dit, il pouvait compter tous ses os. On a percé mes mains, on a percé mes pieds. Les évangiles nous racontent qu'on lui a mis une couronne d'épines. On a fait toutes ces choses parce qu'il voulait te sauver et me sauver. Jésus-Christ est mort à la croix. C'est ça l'évangile et c'est une bonne nouvelle. Parce que lui, il a subi la croix, il a subi l'enfer, à ma place, à ta place, à la place de chacun d'entre nous. Et si on y croit, on peut avoir ce salut, ce pardon des péchés. Si on n'y croit pas, c'est un péché qu'on rajoute, puisqu'on méprise le don de Dieu, le don gratuit de Dieu. Et je ne dis pas ça pour vous forcer à accepter cette bonne nouvelle, cette solution que Dieu vous propose. Je vous dis ça pour que vous ayez le choix, parce que Dieu vous aime. Et parce que c'est ce qu'il nous demande de dire. Paul le disait il y a plus de 2000 ans, ou il y a 2000 ans en tout cas. Et ce soir encore, on redit la même chose. Pour être sauvé, il y a un seul évangile. C'est que Christ, Jésus-Christ, est mort à la croix pour nos péchés. Il a subi l'enfer pour que nous ne subissions pas cet enfer. que nous y échappions. Oui, Jésus-Christ a souffert pour moi, à ma place. Nos péchés nous séparaient de Dieu. Mais Christ a payé la dette pour que nous soyons réconciliés avec Dieu. C'est ce qui est marqué sur ce mur, oui. Il fallait une vie qui meure pour qu'une vie puisse continuer de vivre dans l'éternité. Il fallait une vie pour une vie. Vous savez ce qu'il fallait pour être sauvé? Il fallait un sacrifice, que quelqu'un paye à notre place. Et souvent, des gens ont dit, moi je vais sacrifier, je vais offrir des animaux en sacrifice. Je vais offrir un animal, je vais immoler, couler le sang d'un animal pour être pardonné de mes péchés. Je vais offrir à un dieu quelconque un animal. Et on sacrifie des coqs, on sacrifie toutes sortes de bêtes. Depuis que Jésus est monté sur la croix, tous ces sacrifices n'ont aucun sens. Il fallait deux choses pour que le sacrifice soit agréé de Dieu et qu'il soit valable pour effacer nos péchés. Même les sacrifices de l'Ancien Testament n'avaient aucun pouvoir sur nos péchés et sur la condamnation qui nous était annoncée. Il faisait simplement que donner de la patience à Dieu puisqu'il représentait Jésus qui mourait à la croix. Il fallait donc deux choses. La première chose, c'est que le sacrifice soit volontaire. Il fallait que la personne qui se sacrifie volontairement, de son propre gré et par amour. Un animal ne se sacrifie pas volontairement pour nos péchés. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous voyez la brebis? Ben, je veux mourir pour toi. C'est pas possible. Vous voyez le coq ou toutes sortes d'animaux? C'est pas possible. Un bébé. Dans la Bible, il nous est dit que Dieu a envoyé son peuple détruire d'autres peuples, tuer des hommes. Eh oui, c'est marqué. Si vous avez lu l'Ancien Testament, vous pouvez vous demander pourquoi Dieu est si violent. Lui qui prône la paix, l'amour, la joie, la tolérance, en tout cas le respect les uns des autres, l'amour de son prochain. Pourquoi Dieu a envoyé toutes ces choses? Eh bien, c'est parce que ces hommes, ces femmes, ils offraient leurs bébés sur des statues en métal qu'on chauffait à blanc, qui changeaient de couleur. On posait les bébés sur les mains brûlantes, les bébés brûlés, et ils étaient offerts en sacrifice, soi-disant, pour apaiser la colère du Dieu. Et les bébés brûlaient dans les mains. Ils roulaient sur le sol, parfois ils arrivaient à échapper, ils tombaient. Et s'ils ne mouraient pas de leur blessure, ils restaient marqués, défigurés à vie. Et Dieu a mis 400 ans de patience, entre autres. Même quand ils voyaient ça, la patience de Dieu est immense, on ne la comprend pas. Dieu a patienté, mais voyant qu'ils ne se détournaient pas de leur péché, il disait à Abraham, plus tard, pas maintenant, je te donnerai ce pays, parce que le péché de ce peuple n'est pas arrivé à son comble. Et lorsque la patience de Dieu est arrivée à son terme, Dieu a envoyé son peuple détruire ceux qui commettaient de telles choses. Au bout d'un moment, Dieu a dit stop, c'est plus possible. Ces gens ne s'arrêteront jamais. Un bébé qui est donné, il ne le fait pas volontairement non plus. C'est pas possible, c'est pas valable. Et puis quelqu'un d'autre ne peut pas payer comme ça s'il ne le veut pas. On ne peut pas forcer quelqu'un à payer à ma place. Jésus disait ceci, on ne m'ôte pas la vie, je la donne. Il disait le bon berger, et il parlait de lui, le bon berger donne sa vie pour les brebis. Et c'est ce qu'a fait Jésus à la croix, il a donné sa vie en rançon pour nous, pour nos vies, pour qu'on soit sauvés. Ça c'est le premier critère, le deuxième, il fallait un sacrifice pur, sans tache. Quelqu'un de parfait, sans avoir jamais péché. Et le seul qui correspond bien sûr à ce critère, c'est Jésus-Christ. Lui qui n'a jamais péché. Vous croyez que c'est facile de vivre sans péché? Qui a essayé de vivre sans péché? Il n'y a pas des chrétiens ici ce soir. Vous essayez pas de vivre sans péché? Bon, ça me rassure. Hein. Essayez de plaire à Dieu. On a tous essayé. Dire à partir de maintenant, j'arrête d'être menteur. À partir de maintenant, j'arrête d'être grossier. À partir de maintenant, j'arrête d'être orgueilleux, égoïste et toutes sortes de choses. D'être vulgaire, d'être méchant, j'arrête. J'arrête de mépriser Dieu. Allez, aujourd'hui, je lui parle tous les jours. Et puis on se fait avoir. Parce que notre corps ne va surtout pas vers les choses de Dieu. Notre chair est allergique aux choses de Dieu. Elle est contre les choses de Dieu. Elle n'aime pas les choses spirituelles, les choses de Dieu, qui nous conduisent au paradis. Parce qu'elle a un poison qui s'appelle le péché. Et elle est vouée au péché. Et le seul qui a tenu sa chair propre, pure, son corps, son esprit, son âme, sainte, pour pouvoir nous sauver, c'est Jésus-Christ. Et il est venu dans un seul but, celui-ci, nous sauver. Et pour être agréé, pour que son sacrifice, pour que le don de sa vie soit agréé de Dieu, il fallait qu'il soit pur et sans péché. Et il pourra dire, qui de vous me convaincra de péché? Qui de vous? Alors que dans Job, il est écrit qu'il ne faut pas beaucoup d'heures ou beaucoup d'observations à Dieu pour entrer en jugement avec l'homme. ou pour que l'homme rentre en jugement avec Dieu, lui, il était saint. Et Dieu l'a reconnu comme pur. C'est pourquoi il a agréé son sacrifice. Et quelle preuve avons-nous que Dieu a agréé le sacrifice de Jésus? Eh bien, on en vient à la troisième chose dans 1 Corinthiens 15. Au verset 4, il est dit, il a été enseveli puisqu'il est mort. Jésus a bien été mis dans un sépulcre. Mais il est dit aussi qu'il est ressuscité le troisième jour. Voilà la preuve que Dieu a agréé le sacrifice de Jésus. Il l'a ressuscité le troisième jour. Que ferions-nous d'un Dieu mort? Qu'est-ce que vous en pensez? Ou d'un sauveur mort? Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi. Si vous aviez un grand sauveur, on vous dit, il peut sauver le monde entier. Il est fort, il est puissant. Quand on l'a vu, il a guéri des malades. Il a guéri des lépreux. Il a guéri toutes sortes de choses. Il a donné de la paix. Il a donné de la joie. Il a donné des paroles d'encouragement. Mais pas de bol, il est mort. Qu'est-ce que ça ferait pour nous? Rien du tout. Il n'y aurait pas besoin de venir là ce soir. Pas besoin. Mais il nous est dit que, puisque Dieu a agréé son sacrifice, puisque Jésus s'est tenu pur, puisqu'il a donné sa vie complètement, il a obéi à Dieu, à son Père, eh bien Dieu a agréé son sacrifice, il l'a ressuscité. Et Jésus, s'il est mort, il est ressuscité, il est vivant pour nous ce soir. J'ai un Dieu vivant, tout puissant, Jésus qui a pas eu honte d'aller sur la croix pour me sauver, de porter mes péchés sur la croix. Il est monté, il a subi la honte de la croix quand même. Lui qui a pas eu honte de moi, il est vivant encore aujourd'hui pour m'aider à pas avoir honte de lui. Amen. Celui qui a pu sauver et dire à quelques femmes, à quelques personnes, tes péchés sont pardonnés, il peut me le dire encore aujourd'hui puisqu'il est vivant, il n'est pas mort. Il n'est pas resté dans la mort, il a vaincu la mort, il est ressuscité. Il est vivant et aujourd'hui il dit à celui qui lui demande pardon pour ses péchés, tes péchés sont pardonnés. Si tu crois que je suis mort à la croix en les portant, pour toi, pour les payer à ta place. Il est vivant. Imaginez-vous cette affaire, j'avais prévu de lire peut-être un texte sur la résurrection de Jésus, mais le temps me manque. Et j'imagine vraiment les femmes, Marie de Magdala par exemple, avec les autres femmes qui étaient là, qui vont au tombeau pour voir Jésus, hein, pour l'embaumer. Parce qu'un corps en putréfaction, ça pue. Elles vont mettre du parfum et elles vont au tombeau. J'imagine le deuil. Jésus, notre sauveur, lui qui guérissait, lui qui m'a délivré. Marie de Magdala, elle pouvait dire, mais moi, il m'a délivré, etc. Il a chassé les démons, il a fait toutes sortes de choses. Ah là là. Et puis, elle s'approche du tombeau avec ce deuil, cette tristesse dans son cœur. Et quand elle arrive, elle s'entend dire par la bouche d'un ange, quand elle voit le tombeau ouvert, elle rentre et elle voit un ange qui lui dit, il est ressuscité, il est vivant. Alors, au début, elle est un peu dubitative, elle ne sait pas trop quoi penser, elle rentre, elle n'ose pas trop en parler. Et puis, d'un coup, sur le chemin, Jésus se révèle à elle. Jésus apparaît, Jésus vient à elle à sa rencontre. Et puis, elle commence à le reconnaître. Il est dit qu'elle se saisit de ses pieds et elle l'adora. Elle adore le Seigneur Jésus. Elle voit, le Seigneur est vivant. Puis elle court, Jésus lui dit, va le dire à mes disciples. Elle court, j'imagine, elle frappe à la porte. Hé, les frères, Jésus est vivant. Il est vivant, il est ressuscité. Il a vaincu la mort. Et tout ça. Et puis les autres qui la croient pas, qui les croient pas. Vous savez, on est toujours incrédule. Hein. Si je vous dis Jésus est vivant, vous allez me dire, oui, mais il est où? Il est loin. Vous n'allez pas y croire. Il va vous falloir une révélation personnelle, une rencontre personnelle avec Dieu. C'est là que vous entrez en jeu. Il vous faut vous dire, mais Seigneur, si tu es vivant, prouve-moi, montre-moi que tu es vivant. Donne-moi la paix dont tu parles. Accorde-moi le pardon. Moi, j'en ai besoin. J'ai besoin de toi. Et si tu es vivant, guéris-moi. Si tu es vivant, montre-le-moi, Seigneur. Je veux te rencontrer. Si vraiment tu es vivant, tu es celui dont on parle, dont on raconte toutes ces choses, eh bien montre-moi, révèle-toi à moi. Et je suis convaincu que Dieu va le faire. Parce que Dieu veut une rencontre avec chacun d'entre nous. On a de la valeur à ses yeux. Jésus est vivant. Ouh, ça a dû faire un effet extraordinaire. Hein, quand après les apôtres, ils ont vu Jésus venir au milieu d'eux. Oh, il est vraiment vivant. Vous avez vu un peu ce zèle qu'ils ont eu après? Sur le chemin d'Emmaüs. Hein. Il y a deux personnes, deux disciples, ils sont là, ils marchent, tout découragés. Jésus est mort, Jésus est mort. Et puis d'un coup, Jésus arrive par derrière, ils ne le reconnaissent pas, et puis il commence à parler, il dit, mais de quoi vous parlez tout ça? Mais tu n'as pas entendu ce qui s'est passé à Jérusalem? Ce qui est arrivé à cet homme-là, ce Jésus? Il est mort, on croyait qu'il allait délivrer le peuple, on croyait qu'il allait mettre par terre l'armée des Romains, etc., l'armée de César, ou je ne sais plus qui c'était le roi à l'époque, mais on a cru qu'il allait délivrer notre peuple. Et puis voilà, on l'a mis à mort. Et lui commence à leur parler, puis petit à petit, il y a une joie. Et puis ils lui disent, viens avec nous, viens à l'auberge, tu sais, il fait nuit, il ne faut pas trop marcher la nuit. Hein. Puis ils commencent à se mettre à table à l'auberge. Jésus accepte leur invitation. Jésus ne refuse jamais une invitation qu'on lui fait pour rentrer dans notre vie. Et puis alors, il se met à table avec eux. Et comme il en avait l'habitude, il se met à rompre le pain. Il rompt le pain, voilà. À l'époque, c'était pas des baguettes, c'était des boules. Alors j'imagine, il ouvre la boule comme ça, hop. Et puis il rompt le pain et il se met à rendre grâce. Est-ce que vous priez avant de vous mettre à table? C'est important de dire merci au Seigneur pour la nourriture. Puis là, il se met à prier. Seigneur, je te rends grâce. Je ne sais pas quelle prière il fait. Et puis d'un coup, les deux autres, ils se souviennent. Ça, c'est Jésus. Et ils le reconnaissent. Et à ce moment-là, Jésus disparaît. Et même s'il fait encore nuit, d'un coup, ils sont plus timides. Vous avez vu? Ils se mettent à sortir et ils vont là où ils voulaient aller. Ils vont en pleine ville, ils commencent à raconter, mais Jésus est vivant. Et on a une bonne nouvelle, nous qui croyons en Jésus. C'est qu'il est vivant. Il peut sauver, il peut guérir, il peut baptiser du Saint-Esprit. Il revient. Jésus est vivant. Plus rien à craindre. Mon père, il rentrait du travail le soir. Hein, il travaillait de nuit. Et soit il rentrait pendant qu'il faisait nuit, soit il allait au travail quand il faisait nuit. Et quand il marchait, il levait la tête. Il regardait les étoiles. Hein? Vous regardez de temps en temps les étoiles? C'est beau quand même. Hein? Et il regardait les étoiles comme ça, et il disait, c'est mon père qui a fait ça. C'est mon père qui a fait ça. On a de la chance. Excusez-moi le mot, mais vous comprenez ce que je veux dire. On a un privilège que le monde n'a pas. Jésus est vivant, et il nous a sauvés à nous, qui avons cru. Et à vous qui entendez ça ce soir, peut-être qui n'y avez pas encore cru, ou qui entendez ça sur Internet, peu importe où est-ce qu'on l'entendra. Mais Jésus est vivant, c'est une bonne nouvelle. Et c'est un privilège qu'on a d'entendre ce message, encore plus quand on l'a cru et qu'on a vécu ce message. Jésus est vivant. Si quelqu'un est venu avec la peur, parce qu'il ne savait pas à quelle heure il allait rentrer, qui c'est qu'il allait rencontrer. Mais repartez en paix, Jésus est avec vous. Jésus va être dans votre cœur, avec votre vie. Et il a dit, je ne vous abandonnerai jamais si vous m'acceptez dans votre vie, bien sûr. Et si vous voulez me suivre, m'obéir. Ça, c'est la condition aussi. Mais Jésus est ressuscité, il est vivant. Si quelqu'un avait un rendez-vous à passer demain, et qu'il n'en savait pas encore le sort, rendez-vous pour un emploi, rendez-vous pour une explication quelconque, rendez-vous avec son chef pour donner des comptes, peu importe les circonstances, Jésus est vivant. Il est vivant et il peut vous aider. Si vous, vous gardez votre vie au clair, si vous êtes prêt à confesser vos péchés, des fois, vous savez, au travail, on a fait, ça arrive des fois de ne pas faire ce qu'il faut, de se louper, non? Moi, je me souviens, quand je travaillais à Milo Garcin, un jour, j'avais fait une erreur. Et j'avais peur que ça se sache. Et puis un jour, le chef, il me convoque. Et puis il me dit, Jérémy, c'est bizarre, il y avait ça, ça a été mal fait, etc. Et tu sais, Jérémy, je comprends pas comment ça se fait. Mais lui, il se posait vraiment la question, il avait aucun soupçon sur moi. Puis il commence à se demander, mais tu sais, Jérémy, c'est bizarre quand même et tout, etc. Et puis moi, je me sentais tellement mal, tellement mal. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'il en pense là, le Seigneur Jésus? Il dit qu'il est avec toi, alors il a tout vu, le Seigneur Jésus. Oh, qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce que t'en penses? Et j'ai dit, oh là là, je suis mal. Puis au bout d'un moment, je dis, arrêtez, écoutez, il faut que je vous dise quelque chose. C'est moi qui ai mal fait le travail. Je vous demande pardon, c'est moi. Et j'ai pas osé venir vous le dire. Je vous demande pardon. Voilà. J'ai aucune excuse, je vous demande pardon. Le chef, il m'a regardé. Il dit, oh, t'es bizarre, toi. Il dit, oh, c'est bizarre. Il dit, bon, écoute, pour cette fois-ci, ça va. Ça va, retourne au travail. Vous voyez, le fait d'être honnête, vous pouvez pas imaginer la joie que ça m'a fait. Quand on confesse son péché, quand on confesse son erreur, quand on se reconnaît, eh bien, sans se justifier, qu'on se reconnaît, eh bien, des fois avec un manquement, avec un péché, une faute, et qu'on la confesse, on dit pardon et on ne cherche pas des excuses derrière. La joie qu'on a derrière, d'avoir été honnête, on est au clair avec Dieu. Et si quelqu'un n'avait jamais fait la paix avec Dieu, qu'il lui dise, Seigneur, je viens devant toi, je ne vais pas chercher des excuses. Pour le fait que je t'ai jamais parlé depuis ma naissance, toi qui m'as créé. Je vais jamais chercher d'excuses pour le fait que je t'ai jamais demandé ce que tu voulais de ma vie. Tu m'as donné la vie, je t'ai jamais demandé de compte, je t'ai jamais demandé ce que tu voulais que je fasse. Je t'ai ignoré, je t'ai méprisé, toi qui avais donné ta vie, Jésus, pour moi à la croix. Je réalise ce que j'ai mal fait. Je ne cherche pas d'excuses, Seigneur. Je viens tel que je suis et je te demande pardon. Sauve-moi. Sauve-moi. Il y a vraiment de la joie à faire ça. Vous savez ce qui se passe après? Comme il a dit Brice, il y a une paix qui vient. Une grande paix. Et on sait qu'on est sauvé. Parce que celui qui demande pardon pour les péchés, parce que le sang de Jésus a coulé à la croix, il est purifié de tous ses péchés. Tous ses péchés sont effacés. Il n'y a plus de condamnation pour lui, nous dit la parole et les saintes écritures. il est libre, libre, libre de tout péché. Et il sait que s'il part aujourd'hui, il va au ciel. Ce soir, est-ce qu'on est sûr tous, personnellement, que si notre vie s'arrête, si notre vie touche à sa fin, on va au ciel maintenant? Est-ce que vous êtes sûr? Vous pouvez dire, moi, je le sais, il n'y a rien à dire. Je le sais, je vais au ciel. Je ne suis pas parfait, ah, ça c'est clair, je ne suis pas parfait. Mais je tends à m'améliorer, à compter sur le Seigneur pour qu'il me délivre de ce qui me gêne encore dans ma vie, de ce qui me fait défaut. Et quand je faute, je demande encore un nouveau pardon. Comme ça, je n'ai plus rien à me reprocher. Je suis en règle avec Dieu. C'est ça, l'Évangile. Jésus est vivant. Il faut lui parler, on peut s'adresser à lui, on peut lui demander du secours, on peut lui demander pardon, on peut lui demander ce qu'il veut qu'on fasse. Ça fait partie aussi du contrat qu'il nous propose. Tout ça, gratuitement, sans rien payer. Juste pour prix de notre foi. Lui faire confiance, croire en ce message. Jésus veut nous sauver de nos péchés. Dieu veut nous sauver de nos péchés. Parce qu'il nous aime et on a de la valeur à ses yeux. Pour nous sauver, il a envoyé Jésus qui est mort à la croix, payé pour nos péchés. Et Jésus n'est pas simplement mort, mais il est ressuscité. Pour nous accorder tout ce que Dieu nous a promis au travers de son Fils et de son sang qui a coulé. Quatrièmement, il nous est dit qu'il y a eu toutes sortes de témoins. Un coup 500 frères à la fois, un coup des apôtres, un coup simplement les femmes qui sont arrivées au tombeau. Peu importe, il y a eu plein de témoins. Plein de témoins. Et si on lit les quatre premiers versets de l'évangile de Luc, on voit que l'évangéliste Luc, qui était un médecin, qui n'a jamais vu Jésus de ses yeux, il a fait des recherches exactes sur tout ce qu'on a entendu, ce message-là. Il a dit, c'est bizarre, je vais me renseigner. Je vais être sûr que ce soit vrai. Il est allé, il a été détective privé. Et il a fait des recherches, il a regardé, est-ce que c'est vrai que telle personne a été guérie? Il est allé sûrement à la maison, sur place, demander dans le quartier. Il n'y a pas eu un jour un homme qui s'appelait un tel, on m'a dit que c'était ça. Est-ce que c'est vrai? Qui a vu ça? Pof! Parce qu'il a dit qu'il a cherché des témoins oculaires. Des gens qui ont vu ces choses. Il leur a demandé. Et il a confronté plusieurs témoignages. Tu dis ça. Puis il n'a rien dit, il est allé ailleurs, tu dis ça. Il a confronté toutes ces choses. Et il a vu que le message de l'évangile était vrai. Il y a eu des témoins qui nous ont raconté ces choses. Ces textes nous ont été transmis. Et encore aujourd'hui, je crois que dans cette salle, il y a des témoins de la grâce de Dieu. Qui peut dire j'ai été guéri? Moi, j'ai été guéri. Parce que Jésus a guéri il y a 2000 ans, mais il est vivant et il guérit encore aujourd'hui. J'avais l'hépatite B, Dieu m'a guéri. Et toutes sortes d'autres choses, Dieu m'a guéri. J'avais de la timidité, Dieu m'a guéri, ça se voit? J'avais toutes sortes de problèmes intérieurs, des maux intérieurs. J'étais limite dépressif, j'avais toutes sortes de choses, susceptibles. Je prenais tout mal, je m'enfermais, je culpabilisais, j'avais honte de tout. Le moindre bouton sur mon visage me faisait avoir une honte pas possible. Et j'étais malheureux, je voulais la mort, j'ai failli me suicider à plusieurs reprises. Et Jésus a toujours été là pour me garder. Et un jour, je l'ai accepté dans ma vie. Et cette envie de mourir et cette peur aussi à la fois de la mort m'a quitté. Parce que Jésus est vivant aujourd'hui. Et ce qu'il a fait il y a 2000 ans, ce qu'il y a fait depuis des milliers d'années, il veut le faire encore ce soir pour qu'il y ait toujours, chaque année, chaque jour de la vie, des témoins dans le monde pour qu'un maximum de gens soient sauvés et n'aillent pas en enfer. Je vais poser une question un peu incongrue. Voulez-vous être les témoins du Seigneur? Voulez-vous devenir les témoins parce que Dieu aura agi dans votre vie? Que vous soyez chrétien ou pas, là je parle à tous, est-ce que vous voulez être les témoins du Seigneur Jésus-Christ? Est-ce que vous venez à l'église pour aller à l'église ou est-ce que vous venez à l'église pour vraiment vivre ce que vous allez entendre? Est-ce qu'on vient en réunion pour vivre encore plus de choses parce qu'on connaîtra encore plus de choses sur les capacités de Dieu ou est-ce qu'on vient pour ajouter aux réunions, pour apaiser notre conscience? Est-ce qu'on vient dans le but de devenir des vrais témoins pour le Seigneur de Jésus? Pour le Seigneur Jésus, pour Dieu? On en a envie, on en a soif. On le veut, je sais que c'est parce que vous êtes très respectueux que vous ne répondez pas forcément tous. Mais je crois que Dieu veut faire de nous ses témoins. Et pour cela, il va même nous remplir du Saint-Esprit qui a soif de voir ces choses dans sa vie. Si quelqu'un n'a pas le pardon, qui a soif du pardon? Si quelqu'un a soif de guérison, eh bien, qu'il demande à Dieu la guérison. Si quelqu'un a soif de quoi que ce soit, quel que soit notre besoin ce soir, et on incline nos fronts, quel que soit notre besoin ce soir, Dieu peut et veut y répondre. À condition que ce soit dans sa volonté. Si vous voulez gagner au loto, c'est parce que vous ne réalisez pas que c'est ça qui fera votre bonheur. Mais si vous avez soif et si vous avez besoin, si votre prière c'est d'être pardonné de vos péchés, alors Dieu sait que c'est là le vrai besoin. C'est que vous avez compris l'essentiel du besoin des hommes. Le vrai besoin de l'humanité, d'être sauvé avant de mourir et de rendre compte pour sa vie devant Dieu. On a tous besoin de ce Jésus qui est vivant pour qu'il nous sauve, pour qu'il nous guérisse et qu'il fasse de nous ses témoins. Le monde a besoin de témoins. Soyons ces candidats, ces volontaires pour être les témoins du Seigneur. Amen. Seigneur Jésus, par ce court message, par ce témoignage, par ces chants, tu nous as exhortés à réaliser, tu l'as dit dans les trois domaines, que tu es vivant. Et ce soir, nous ne voulons pas adorer ou s'adresser à un Dieu mort ou un Jésus mort, mais nous réalisons que tu es vraiment vivant et que importe notre besoin, tu es là et tu veux y répondre, tu peux y répondre puisque tu es vivant. Tu réalises aussi et tu nous fais réaliser le besoin de ce monde qui se perd, qui ne comprend pas qu'un jour il rendra des comptes pour chaque œuvre qu'il aura faite. Et que tous nous sommes voués devant Dieu à reconnaître notre état de pécheur et de perdu. Tu l'as dit un jour, toute langue confessera que tu es Dieu, tout genou fléchira devant toi. Et nous voulons le faire avant d'être dans le ciel, parce que si nous ne le faisons que dans le ciel, il sera trop tard. Et nous n'aurons pas part au pardon et au salut au paradis. Mon désir, Seigneur, c'est que ce soir, nous soyons tous sauvés. Et au-delà, que nous soyons tous des témoins. Pour toi, fais de nous tes témoins. Remplis-nous du Saint-Esprit, Seigneur. Accorde-nous d'ouvrir les yeux sur ce que tu veux dans nos vies et pour nos vies et pour le monde. S'il te plaît, Seigneur, pendant ces moments de prière, qui sont importants comme on l'a vu encore, donne-nous de réaliser ces choses et de répondre à ton appel. Amen.